n'a pas le choix, faut vivre avec.
En direct.
Avec JC et Patricia.
Radio X.
h 01, on va rejoindre notre chroniqueur, nouveau, je le dis encore, mais à un moment donné, on va arrêter, on va prendre notre aise, puis on va le présenter comme étant l'extraordinaire Christian Rioux qui est là. Monsieur Rioux, bonjour!
Bonjour, comment allez-vous?
Comment allez-vous vous-même?
Très bien, bon. Très bien, avec le beau soleil qu'il fait en ce moment au Québec, là, tout va bien.
Oui, puis on en a pour 3-4 jours, là, donc on va en profiter. L'été n'est pas fini, ça c'est sûr. Mm-hmm. J'allais dire qu'aujourd'hui, tu allais nous parler de Trump, mais c'est plus que ça. On va parler, je dirais, de quasiment du paradoxe québécois. C'est un peu ça, hein?
Oui, je pense que c'est un paradoxe québécois. C'est très particulier. Moi, vous savez, je passe grande partie de l'année en Europe. Oui. Et je débarque ici périodiquement. Alors, à chaque fois que je débarque, il y a des affaires qui me sautent aux yeux, vous voyez, qui sont différentes de ce que je connais d'habitude. Et je vous dirais que depuis un an ou deux, je trouve qu'il y a au Québec une hystérie Trump. C'est Trump, 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 partout. Des fois, je m'amuse à compter le nombre de secondes ou de minutes quand j'allume la radio, avant qu'on prononce le mot Trump. en général, c'est pas long. Et je suis surpris. Bon, qu'on parle de Trump dans les négociations sur les tarifs douaniers, c'est juste normal. Ça va de soi. Mais Trump est partout, partout, partout. Il n'y a pas un bulletin de nouvelles où il n'y a pas deux nouvelles concernant Trump. Il n'y a pas une entrevue à la radio, à la télé, où on ne fait pas une référence à Trump. Même, je suis surpris, même les entrevues culturelles avec des artistes québécois qui portent sur des sujets là, les plus divers, qui n'ont rien à voir avec Trump. Il faut absolument qu'à un moment donné, l'artiste fasse son signe de croix puis fasse une petite shot là, contre Trump. Je trouve que c'en est maladif et je dirais que c'est nocif parce que ça nous cache la réalité des choses.
Et tu parles des médias, puis moi, je vais même t'amener ça. essayer d'aller dans un Tim Hortons ou dans un café ou dans un resto. Et puis je le fais des fois, on s'isole, on se prend un petit café puis on regarde nos trucs. Puis quand t'es seul, ben veux pas, c'est pas de l'écorniflage, mais tu t'écoutes, tu sais, tu sais, c'est pas rare une tablée de gens, je dois le mentionner souvent d'un certain âge, mais où on n'entend même plus les mots entre Trump. Là. C'est Trump, et je sais pas, puis Trump, puis Trump. Puis c'est devenu, parce que je pense qu'il y en a qui pourraient considérer que le terme hystérie est exagéré, mais pas moi. Moi, je pense que c'est vraiment devenu une espèce de c'est maladif. C'est devenu l'ennemi à abattre commun et ça fait bien en société de se trouver un ennemi commun puisqu'on sent qu'on est tous ensemble et qu'on se supporte. Mais des fois, t'as raison, j'en peux plus. Puis, nous, on en parle de Trump, mais souvent, soit pour dénoncer ce que tu es en train d'exprimer ou soit pour, comme tu dis, parler d'actualité. Évidemment que si je parle des échanges, comme on vient de le faire avant la pause, du deal entre les États-Unis et le Canada, évidemment qu'il faut mentionner Donald Trump, mais c'est clairement, au-delà de ça, tu me parles d'Europe. Toi, tu es en France. Est-ce qu'on parle parce que je les écoute, les bulletins de nouvelles français, pas tous, évidemment, mais j'essaie d'être ouvert sur le monde puis d'écouter ce qui se passe ailleurs. J'entends pas tant que ça. Je l'entends dans des moments névralgiques, mais j'entends pas Trump à toutes les sauces comme ici. Ah, Trump a manqué une réunion pour jouer au golf. J'entends pas ça en France.
Non, effectivement, on n'entend pas ça. Puis ailleurs, en Europe non plus, je pense qu'au Royaume-Uni non plus. Quand il y a des émissions puis culturelles, les entrevues culturelles, on ne parle pas de Trump. Il y a plein d'autres sujets européens où on ne parle pas de Trump. Pourtant, les Européens aussi négocient des traités de libre-échange avec Trump. Les Européens aussi sont confrontés un peu au même problème avec Trump, parce que bon, Trump, c'est évident que c'est pas un président ordinaire.
Ah non, hein? c'est clair.
Il a son style à lui, il est erratique, il fait plein de choses. Mais je dirais que moi, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'à force de créer une hystérie autour de Trump, puis c'est sûr que ça a de l'effet sur les gens, là, c'est sûr que rendu au Tim Hortons, les gens, ben, écoutez, ils sont brainwashés à longueur de journée sur Trump, alors évidemment, ils parlent de ça. Mais ce qui m'ennuie, c'est que ça nous cache en fait ce que fait Trump, parce que Trump, à mon avis, c'est pas un fou. Il y a des gens qui disent que c'est un fou. Moi, je pense que c'est pas un fou. Et il y a des politiques, ce gars-là. Hein? Il y a des politiques. Et
il y a une vision, il y a une idéologie. Tu sais,
c'est... Oui, il y a une vision des choses. Par exemple, pourquoi ils attaquent le Venezuela et l'Iran? Parce que c'est des alliés de la Chine, non?
Ouais, entre autres, oui.
Bon.
Je pourrais dire aussi à cause du pétrole aussi, d'une certaine mesure.
Le pétrole, mais le Venezuela et l'Iran, ils vendent la majorité de leur pétrole à la Chine.
Absolument.
Absolument. Et Trump, il sait ça, Trump. Sa priorité, lui, en politique étrangère, c'est d'affaiblir la Chine. Il ne va pas nous le dire comme ça, mais dans les gestes, on voit bien qu'il fait quelque chose. On voit que c'est logique. On voit que ça a du bon sens. C'est pour ça qu'il se désengage de l'Europe. Mais ça, il faut le savoir, là. Il faut comprendre ça, puis il faut arrêter de cette espèce d'hystérie anti-Trump. Il y a pas longtemps, je le mentionne, hein, pas longtemps dans la presse, il y avait une chronique qui s'intitulait « Je n'aurais jamais pensé détester autant les Américains ».
Francis Vaille. Et,
ouais, c'est incroyable.
Et je m'excuse, mais tout le long de la chronique, on disait qu'on détestait les Américains. Essayez d'imaginer une chronique où... on aurait écrit « Je n'aurais jamais pensé détester autant les Noirs hein? ».
ou même en nationalité. Imaginez aller aux États-Unis, prendre le New York Times et lire un article qui dit « Je n'aurais jamais pensé détester autant les Québécois ». Écoute, on fait une crise de bacon pendant une semaine.
C'est sûr, puis c'est normal. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait des limites à ça à un moment donné. Moi, j'ai des amis qui vont plus aux États-Unis. Je ne sais pas, il me semble que les Québécois n'avaient pas tellement de complexes à aller à Cuba, par exemple, de pas si longtemps.
Côté paradoxe, tu peux difficilement frapper plus dans le mille. Tu viens de la mettre en dehors du stade, là, carrément, parce que pendant des années, on s'est auto-convaincu qu'on allait là pour aider la femme de chambre en lui amenant de la pâte à dents, tu sais, alors que sur le 1 000 $ de dépenses pour aller dans un tout inclus à Cuba, ben il y en a 40% qui s'en allaient directement dans un régime dictatorial, là, ni plus ni moins. Là.
Oui, absolument. Puis on apprend aujourd'hui de plus en plus avec les Cubains là, qui s'exilent à Miami. On apprend ce qu'était justement la réalité de ce picalite encore, la réalité de ce régime-là. On boycotte les produits américains. Je veux dire, le film L'Odyssée là, de Christopher Nolan a fait 9,3 millions de dollars au Québec.
Ça. Il a battu tous les films québécois.
Tous les films québécois et même les films américains. Donc, on s'est garoché là en oubliant que, tiens, c'est un film américain, ça.
Le summum étant monsieur, madame qui passent leur journée à insulter Trump, mais sur Facebook. ou aller au Walmart à toutes les semaines.
Oui, absolument. Donc, il y a une espèce d'inconséquence là-dedans. Et je peux vous dire que M. Carney, par exemple, notre premier ministre canadien, bien, il s'est fait élire là-dessus, très largement sur cette espèce d'hystérie anti-Trump. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut aimer Trump. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut approuver ses politiques, qu'il ne faut pas le critiquer. Mais justement... L'hystérie anti-Trump nous empêche de voir ce qu'il fait véritablement.
Mais là, au-delà de ça, parce que ça, c'est drôle parce que c'est des incongruités qu'on voit au jour le jour. Tu sais, aller voir un film américain alors qu'on dit qu'on n'achète plus rien d'américain, etc., les exemples que tu viens de donner. Mais quand ça commence même à jouer sur nos politiques intérieures, puis au-delà de l'économie puis des tarifs, puis tu l'avais noté dans les notes que tu nous as envoyées, tu sais, là, on est rendu qu'on décide de notre destin national, donc le report d'un référendum sur l'indépendance qui est promis depuis des lustres. Je dis report du référendum alors que c'était prévu comme ça, là. C'est une game stratégique. Dans le livre bleu, c'est inscrit que ça allait être dans la 4e année du mandat, de toute façon, le référendum de PSPP. Mais de le présenter comme ça pour aller, encore une fois, parler à l'émotion du Québécois, regardez, on n'a pas le choix de pousser le plus loin possible le référendum à cause de Trump, là, ça commence à me déranger parce qu'on est au-delà de la petite personne qui dit quelque chose puis qui fait autre chose. Là, on est... Ça joue dans... C'est fou quand même, là. T'sais, ça joue dans notre destin politique interne.
Oui, c'est sûr, ça a des effets politiques internes. Est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon aurait... pas dû ou s'il a bien fait de reporter le référendum, mais bon, reporter parce que comme vous dites, il l'avait déjà annoncé, puis on savait que ça se ferait pas dans les deux premières années. Est-ce qu'il aurait dû le faire ou pas? Chose certaine, il faut qu'il joue avec cette hystérie-là, c'est-à-dire que comme homme politique, il ne peut pas se dire je suis en Allemagne ou je suis en France ou j'agis comme si j'étais au Royaume-Uni. Il faut qu'il agisse comme s'il était au Québec. Puis au Québec, il y a une hystérie anti-Trump. Mais, donc, autant Carney l'a utilisé pour se faire élire, autant Plamondon doit aussi jouer avec ça.
Mais on en a parlé en ouverture, là. Moi, je prétends que ça s'essouffle. Ça n'a plus le même impact. Là. Le bonhomme 7 heures, on l'a sorti ad vitam aeternam durant la campagne électorale de Mark Carney. Il s'en est servi d'ailleurs. Je trouve que, en fait, c'est passé date la stratégie de Donald Trump et la peur. Oui, il y a encore un pan de la population qui va avoir peur et à qui ça leur parle.
Les polytraumatisés.
Puis tu sais, qui ont besoin de cette haine-là, là, parce que je sais pas, ça les divertit. Mais, en tout cas, ou peut-être que je me remplis moi-même, mais j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement.
Vous avez probablement raison. Je pense qu'on sent ça. Là, au Québec, ça ne se manifeste pas encore véritablement. Là, l'hystérie anti-Trump est encore présente. Mais c'est vrai qu'on peut penser qu'un essoufflement de ça s'en vient, que ça va un peu se calmer, surtout si aux élections de mi-mandat, Trump perd les élections.
Ouais.
Là, évidemment, il va être obligé peut-être de se calmer un peu. On va s'apercevoir que la sortie du Trumpisme s'en vient et donc ça risque de se calmer probablement. D'où la question qu'on pourrait peut-être poser à Paul Saint-Pierre Plamondon. Si au mois de novembre, au mois de décembre, la Cour suprême du Canada élimine la loi 21, par exemple, au Québec, là.
Ouais.
Peut-être que Paul Saint-Pierre Plamondon va se dire que c'est un bon moment pour faire un référendum, comme à d'autres époques, ça a été le Lac-Miche, l'échec du Lac-Miche, par exemple.
Mais c'est pour ça que je disais que c'est fou.
Il va peut-être se mordre les doigts.
Mais c'est pour ça que je disais que c'est fou d'enligner toutes nos des politiques, des partis. Et il n'est pas le seul, le PSPP. Les autres aussi, Christine Fréchette, joue beaucoup, beaucoup sur Trump. Puis à un moment donné, ça va s'essouffler. Il faudra se trouver autre chose, les amis. Là, c'est bien, là, ça joue la. Puis Mark Carney a fait un beau playbook là, que tout le monde utilise. Là. C'est-à-dire, on va jouer sur le Hellbozer puis le fait qu'on est fort et fier puis on se tient debout. Mais à un moment donné, effectivement, ça va s'essouffler. Ceci étant. Et il n'y a pas d'assurance que le successeur de Donald Trump ne sera pas aussi catégorique sur des tarifs. Là. Si J.D. Vance, évidemment, il n'y a pas la même enrobage, là, moins agressif, moins excité, disons, mais ça se peut que ce film-là, il y ait une part 2 puis une part 3, là.
Oui, absolument. Je pense que vous avez raison. Est-ce que ce sera J.D. Vance? On ne le sait pas. Mais je pense qu'on peut déjà dire que même si, évidemment, Trump a son style, puis il n'y a personne d'autre qui va avoir le style de Trump, je pense que c'est ça, c'est unique au monde à peu près. Mais je pense qu'on peut déjà dire qu'il y a un certain nombre de politiques de Trump qui vont rester.
Ça me semble
évident. Sa politique sur l'immigration, ça va rester. Peut-être que ça va s'adoucir, ça va être moins violent, ça va être un peu plus civilisé, mais je pense que ça va rester, sa politique sur l'immigration. Le tournant de la politique étrangère vers la Chine, ça va rester. C'est certain que ça va rester. Vous savez qu'Obama avait déporté plus d'immigrants que Trump
dans ses
deux mandats, mais ça paraissait pas, ça se voyait pas. C'était plus civilisé, je dirais. Oui, effectivement. Effectivement, il y avait moins de violence dans ça, bien que Trump a fait ça, j'imagine, pour lancer un message à l'étranger et qui a marché d'ailleurs parce qu'à la frontière mexicaine, ça a chuté complètement les demandes d'asile. Mais oui, je pense qu'on sait déjà qu'il y a une grande partie des politiques de Trump qui vont demeurer. On sait que l'époque du libre-échange à tous azimuts, là, tu sais, partout, tout le temps, c'est terminé, ça. C'est terminé un peu partout. C'est terminé en Europe. Ça va, peut-être que les Européens sont les derniers à s'en apercevoir, mais quand même, c'est terminé. Et donc, une grande partie des politiques de Trump vont demeurer, évidemment, avec un autre style, très probablement, parce que celui de Trump, en tout cas, a fait de l'effet au début, mais il en fait moins aujourd'hui.
Mais il va falloir respirer, là, à un moment donné. Puis tu parlais de l'Europe. Moi, je suis allé aux États-Unis, d'ailleurs, à mon retour de vacances. À mon retour de vacances, j'ai mentionné ça en ondes. Écoute, ça a été un des posts Facebook où j'ai vu le plus d'agressivité. Là, j'ai compris qu'on on n'était pas encore sortis de là. Mais même aux États-Unis, j'ai pas entendu d'Américains dans les restaurants. Je parlais de Tim Hortons. J'ai pas vu ça aux États-Unis, des gens qui parlent de façon aussi agressive. Je pense que les Américains ont compris que c'était sensible et qu'ils évitent un peu le sujet. Mais encore là, même au cœur de la bête, j'ai pas senti autant d'hystérie, pour reprendre ton terme, que j'en ai senti ici, là.
Ben, aux États-Unis, il y a peut-être moins un peu aujourd'hui, mais bon, au moment d'élection, il y a une moitié des Américains qui ont soutenu Trump.
Ben oui.
Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est la moitié des Américains sont cinglés? Non, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles ces gens-là ont soutenu Trump. Il y a un certain nombre de raisons. Il y a des choses qu'ils n'aimaient pas dans le gouvernement Biden et ils ont voté Trump pour ces raisons-là. Je veux dire, on ne peut pas faire passer la moitié des Américains pour des fous. Quand Trump, par exemple, un des premiers décrets qu'il signe, c'est de dire dans l'armée, dans la fonction publique américaine, il y a des hommes puis des femmes. Point à la ligne. Hein?
Oui.
Quand il fait ça, je m'excuse, mais même une grande partie de la gauche est d'accord. Elle applaudit. Oui. D'accord. Donc Trump n'est pas l'homme cinglé qu'on essaie de nous faire voir. Et moi, je souris beaucoup un peu aux politiques, aux pseudo-politiques d'indépendance de Mark Carney, par exemple, qui nous dit « je vais être le leader ». Il est venu en Europe, d'ailleurs, prononcer des discours pour dire « je vais être le leader de l'opposition aux États-Unis ». Vous savez, à une époque, il y a pas si longtemps, Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin, nous avait fait le même coup, c'est-à-dire il avait fait une tournée mondiale à l'époque pour dire « il faut s'opposer aux Américains, il faut une politique d'indépendance, il faut absolument se distancer de l'oncle Sam ». Résultat, au bout de 15 et 20 ans plus tard, les économies canadiennes et américaines sont encore plus intégrées.
Ben oui.
On a signé un traité de libre-échange qui n'existait pas à l'époque de Trudeau. Quand on regarde les chiffres, là, le résultat de ces beaux discours-là d'indépendance, c'est qu'on est quasiment rendu 51e État des États-Unis.
Économiquement, probablement déjà, oui.
Oui, on n'est pas très loin de ça. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les États-Unis, ils ne déménageront pas, là, puis nous, on ne va pas déménager.
Non.
C'est-à-dire qu'on soit indépendant ou qu'on ne le soit pas, il va falloir continuer à avoir des rapports avec les Américains, avec les États-Unis. Et ce n'est pas en disant que la moitié des Américains sont fous qu'on va avoir des rapports avec ce pays-là.
Monsieur Rio, on a fait un beau grand tour pour décrire notre hystérie, mais ça vient d'où? J'aime ça poser la question, parce que je veux dire, notre obsession part de quelque part. C'est-tu parce qu'on n'a plus de projet, on est désabusé, on aime maintenant se victimiser, on apprécie avoir peur en pandémie, donc on recherche constamment
la crise.
Oui, ce sentiment-là. Tu sais, la peur, c'est quelque chose qu'on connaît, ça nous réconforte. Pourquoi?
Ouais.
Parce que là, on en a choisi un, puis on est comme les seuls là, avec une obsession malsaine. Sa planète.
Oui, peut-être que plus qu'on s'américanise, parce que le Québec s'est quand même beaucoup américanisé, on parlait du cinéma tout à l'heure, peut-être que plus qu'on s'américanise, plus qu'on a le sentiment qu'il faudrait faire quelque chose et de temps en temps se distinguer des États-Unis. Et vous savez, au Québec, c'est un peu courant ce genre de montée de je sais pas, d'hystérie un peu, là, c'est peut-être pas...
C'est-tu ce fameux « sans latin », c'est-tu...
Peut-être, mais où c'est... Vous savez, quand il y en a un qui part, on dirait que tout le monde suit en arrière. Au Québec, c'est souvent comme ça. On est une petite société, ça se comprend un peu aussi, on est assez consensuel, mais on a l'impression que quand quelque chose part... Moi, ça m'est arrivé souvent, par exemple, d'écrire sur un sujet un peu à contre-courant quand la vague est au plus gros. J'aime autant vous dire que vous mangez des tomates dans ce temps.
Ah, ça, à Radio X, on connaît cette game-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouvais que ça fitait Christian Rioux à Radio X.
Bon, mais vous savez, des fois au Québec, il vaut mieux attendre que la vague retombe pour dire les choses. Parce que les vagues, sont, en général, sont souvent assez hautes et assez
violentes.
Assez volumineuses. Parce que, donc, le Québec est un peu comme ça, hein, un peu cyclotique. On pourrait dire quelque chose comme ça.
Monsieur Rioux, merci. Ben, je vais t'appeler Christian. Merci, Christian. Bonne semaine.
Très bien.
On se parle la semaine prochaine.
Parfait, très bien.
Salut.
À bientôt.
Salut,
bye. Au revoir.
Christian Rioux, À toutes les semaines, les jeudis, soyez là. Deuxième bloc, c'est là qu'on fait ça. On revient, on fait une pause.
Ouellet, en direct.
Aucune idée, c'est qui?
Radio X.